Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein? Par exemple, bon, il y en a plein, hein? Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Nouvelles du Monde pour ce mardi 21 octobre 2025. On commence sans plus tarder, sans traîner, avec la mention d'une page complète qui a été faite dans les colonnes du Midi Libre de ce jour sur justement les dangers qui pèsent sur le monde associatif. On vous a déjà parlé la semaine dernière des annonces budgétaires pour le plan de financement 2026 dans lequel le fonds de soutien à l'expression radiophonique, donc qui finance une partie du budget de notre radio et des 770 autres du territoire, est grandement amputé. Et je vous le disais, c'est un constat qui est élargi de toute façon à l'ensemble du monde associatif qui avait déjà fait un mouvement « ça ne tient plus » en ce début du mois de septembre, mais également tout le secteur de l'économie sociale et solidaire. Ce qui peut inclure de nombreuses associations d'éducation populaire, etc. Donc, dans les colonnes Occitanie du Midi Libre, on lit que les associations appellent au secours. Elles manifestaient déjà il y a une semaine et bon nombre d'entre elles se retrouvent au bord du gouffre sans trésorerie. L'an dernier, le Conseil économique, social et environnemental alertait sur l'urgence démocratique à s'en préoccuper, à savoir que la part des subventions publiques dans les ressources des assos a chuté de 41%. Entre 2005 et 2020, on est passé de 34% à 20%. Et cet autre article qui titre « Le gouvernement reste sourd à l'appel au secours du monde associatif ». On peut lire par exemple les soucis de la Ligue de l'enseignement, par exemple avec son antenne de Lozère. On lit aussi la présidente du CRAJEP qui nous parle donc de l'état des associations et d'éducation populaire sur le secteur, avec de nombreuses qui ont déjà fermé les portes. Et enfin, ce petit encart sur le coup de rabot donc du nouveau projet loi de finances qui vient rajouter donc encore un coup de plus sur la tête de ce monde associatif. Le mouvement associatif dénonce dans un communiqué de nouvelles coupes budgétaires de l'État pour son projet de loi de finances 2026, tel que présenté cette semaine par le gouvernement. Sont détaillées donc une baisse de 26% des crédits du programme Jeunesse et Vie associative, avec par exemple 40 000 services civiques en moins. Suppression du dispositif Colo Apprenante, ça c'est pour la jeunesse. 541 millions d'euros en moins pour l'insertion par l'activité économique et toutes les associations qui aussi vont par exemple proposer des chantiers d'insertion, ces choses-là. Moins 60% des autorisations d'engagement en faveur de la promotion du sport pour tous. Amputation de 40% du budget alloué à l'économie sociale et solidaire. Une nouvelle baisse de 700 millions d'euros sur le budget de la solidarité internationale, qui est déjà un niveau historiquement bas, puisqu'on avait déjà eu moins 40% sur la transition 2024-2025, donc l'an dernier. Et enfin, donc, réduction de 16 millions du fonds de soutien à l'expression radiophonique, le FSER, ce fameux dossier que l'on remplit tous les ans, ce qui ramène son enveloppe de 35 à 19 millions d'euros, ce qui fait une baisse de 44% par rapport à l'an dernier. À noter en plus que ce qu'on lit, une baisse de 44% ne veut pas dire qu'on aura forcément 44% de budget en moins. Ça peut être bien pire parce que le FSER, c'est tout un tricotage de plusieurs aides, des aides de fonctionnement, donc d'exploitation, des aides sélectives. C'est assez technique, mais en gros, selon la manière dont toutes ces choses seront redécoupées, si ça passe, ça pourrait être bien pire que ça pour les radios. À noter donc que ce matin même, à l'heure où je vous parle, des représentants justement des radios associatives étaient reçus par le cabinet du ministère de la Culture pour rencontrer aussi des députés pour déposer des amendements en ce sens, donc dans le sens de rétablir le FSER. Donc on pourra vous en communiquer un petit peu plus, certainement dès demain ou après-demain. On part aux États-Unis où ce week-end, des millions de personnes ont manifesté contre le président Donald Trump aux USA, selon donc, sous l'adage « No King Day », le jour de pas de roi. En fait, on pourrait dire ça comme ça, la journée de sans roi. Donc peut-être la plus grande manifestation de l'histoire des États-Unis, hein, pour l'instant, elle a eu lieu ce 18 octobre, donc samedi dernier. Une marée humaine inédite, mais impressionnante, dans les rues de ce qui est encore la première puissance mondiale, en tout cas au niveau économique et militaire. Dans les grandes villes comme dans les petites communes, 7 millions de participants, donc selon les organisations. Derrière ce mot d'ordre, pas de roi. Et le tout donc sur un nombre de 2600 rassemblements comptés. Il s'agit pour ces manifestants de dénoncer la fuite en avant autoritaire et néo-fasciste de Donald Trump, que rien ne semble arrêter, qui vient de convoquer son armée pour lui demander une guerre contre les ennemis de l'intérieur. Je vous parlais la semaine dernière notamment des manifestations à Portland. Si les cortèges étaient donc bien massifs, ils sont restés globalement bien sages hein, pour une journée de mobilisation pacifique, alors justement que la violence politique et la répression militarisée se déchaînent dans tous les États-Unis, en particulier contre les étrangers, hein, notamment tous les travailleurs issus d'Amérique du Sud, que des décisions politiques affolantes ont lieu quasiment tous les jours, sans compter les tweets sans queue ni tête du président, qui a décidément l'air d'avoir un petit peu perdu les pédales, enfin je sais pas d'où est-ce qu'il part. Le 14 juin dernier déjà, plusieurs millions de personnes avaient manifesté hein, lors d'un précédent No King Day. À l'époque, 2000 rassemblements avaient été comptés. Cette mobilisation déjà gigantesque à l'époque intervenait, elle, après une semaine de révolte contre les raids racistes de la police anti-immigrants, la fameuse ICE. ICE. 7000 soldats, 150 véhicules de l'armée survolés par des dizaines d'avions et d'hélicoptères avaient paradé. Le même jour, puisqu'à Washington, Trump avait décidé de fêter son anniversaire en organisant une parade militaire à la manière d'un dictateur coréen, mais ça avait quand même nettement moins d'envergure. Cette fois-ci, donc le 18 octobre, Trump a de nouveau réagi. Et alors, ce qu'il adore en ce moment, c'est faire des vidéos avec de l'intelligence artificielle, une vidéo proprement scatologique hein, générée sur son réseau social. On le voit donc aux commandes d'un avion de guerre bombarder des excréments sur les manifestants. Trump a eu au moins un mérite, hein, incarné sans filtre pour une fois l'attitude des dirigeants du monde à l'égard de leur peuple. Une vidéo grotesque qui a fait réagir même du côté de son camp, d'ailleurs de plus en plus de partisans de ce qu'on appelait le MAGA, hein, Make America Great Again, s'offusque de certaines des décisions du président qui va à l'encontre des promesses notamment qu'il avait brandies lors de sa campagne. On pense au dossier Epstein ou à l'indépendance des juges et des journalistes. Voilà, les rues sont pleines donc aux États-Unis. Mais pour l'instant, ça ne suffit donc pas.
C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches.
Un peu de décryptage d'actualité aussi. On part du côté de Gaza, alors que les médias occidentaux, justement, s'extasient pour nombre d'entre eux devant le plan de paix Trump et le prétendu cessez-le-feu en vigueur à Gaza depuis la semaine dernière, donc depuis le 10 octobre, enfin, plus de 10 jours même. Les bombardements de la part d'Israël redoublent de puissance et des assassinats de Palestiniens sont toujours en cours. Les corps de prisonniers palestiniens sont rendus, vous le savez, avec des marques de torture et une violence extrême s'abat en Cisjordanie, alors que les derniers otages en vie ont été restitués à Israël. Ce dimanche 19 octobre, des bombardements intenses ont ainsi frappé toute l'enclave palestinienne, comme au plus fort de l'offensive, ne disons pas guerrière, mais génocidaire, hein, donc en violation totale de l'accord de cessez-le-feu. C'est quand même la base d'un cessez-le-feu, normalement, arrêter les bombardements. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'en est d'ailleurs même vanté hein, hier devant son Parlement. Il s'est vanté d'avoir largué 153 tonnes de bombes sur Gaza et d'avoir frappé des dizaines de cibles. De son côté, son ministre encore plus fasciste, Ben-Gvir, appelle le président à reprendre les attaques à pleine puissance. Le Premier ministre Netanyahou à reprendre les attaques de Gaza à pleine puissance. Rien que ce dimanche, la défense civile à Gaza communiquait la mort d'au moins 45 Palestiniens, dont des civils et un reporter, Ahmad Abu Mter, une victime de plus de la campagne d'exécution dont sont la cible les journalistes palestiniens et palestiniennes. Plus de 300 d'entre elles et eux ont ainsi été tués à Gaza ces deux dernières années, ce qui fait aujourd'hui de l'armée israélienne celle qui a tué le plus de journalistes de l'histoire. Dès le début du cessez-le-feu, d'ailleurs, des tirs avaient déjà été signalés de la part de l'armée israélienne, Israël qui a probablement pris plus de 100 vies supplémentaires donc ces 10 derniers jours. D'ailleurs, l'émir du Qatar condamne la poursuite de ces violations du cessez-le-feu à Gaza. Il s'appelle Sheikh Tamim Ben Ahmad Al Thani. Le Qatar, son pays, est donc un médiateur clé pour la trêve en cours à Gaza. Et il accusait ce matin Israël de continuer à violer le cessez-le-feu suite à cette série de bombardements dont je vous parlais dans le territoire palestinien. De plus, l'armée israélienne n'a pas rouvert les principales routes humanitaires et limite massivement l'entrée des camions de nourriture, là aussi en violation totale de l'accord. Le bureau des médias du gouvernement de Gaza annonçait aujourd'hui que seuls 986 camions qui transportent de l'aide humanitaire étaient entrés dans la bande de Gaza depuis le début du cessez-le-feu, un chiffre donc nettement inférieur à celui qui était convenu dans l'accord, puisque normalement c'était 6600 camions qui devaient entrer à Gaza avant hier soir. Selon toujours ce communiqué du bureau des médias, le nombre total de camions ne dépasse pas 89 par jour sur les 600 camions qui sont censés donc pénétrer dans l'enclave en manque de tout moyen de survie élémentaire.
Non mais n'importe quoi, non mais...
On continue d'ailleurs avec sur la question des reporters RSF, l'ONG Reporters sans frontières, qui faisait savoir aujourd'hui dans un communiqué qu'elle contestait le blackout médiatique qui est imposé à Gaza devant la Cour suprême israélienne. Elle rejoint ainsi le recours de la FPA, l'Association de la presse étrangère à Jérusalem, devant la haute juridiction avec le but d'obtenir judiciairement l'ouverture des frontières de la bande de Gaza à l'entrée indépendante des journalistes pour mettre fin à la violation sans précédent du droit du public à une information fiable, indépendante et pluraliste et de la liberté de la presse. En ce moment, vous le savez, la guerre de l'info fait rage, hein, avec des contre-discours et vérités diffusés à grande échelle via les réseaux sociaux. Chacun, enfin les Israéliens, pro-Bétanyahou, accusant le Hamas de faire des fausses vidéos, de tout mettre en scène, hein, voire même les massacres. Ça reste quand même assez inconcevable, en tout cas en l'état, vu l'état de la bande de Gaza. Mais bon, on ne peut pas le savoir, justement, puisque des journalistes ne rentrent pas. Et à l'inverse, du côté de la fabrique médiatique israélienne, ça fonctionne aussi, ça turbine à plein régime, avec de très nombreux relais, même dans des médias très institutionnels. Il y avait un scandale récemment sur la directrice des programmes de France Télévisions, qui appartenait aussi au CRIF, et qui donc avait une vision très très biaisée de la gestion de ce conflit sur son média. Les réseaux sociaux ne sont pas en reste, avec notamment les nouveaux outils d'intelligence artificielle qui sont venus rendre Photoshop complètement obsolète. Et donc, ça se renvoie des contre-vérités, mais tout en refusant l'entrée des journalistes sur place, donc ce qui pourrait peut-être, eh bien justement, salir un petit peu, en tout cas, certains des discours véhiculés par les autorités israéliennes. Justement, pour contrebalancer et prendre, ça reste donc à prendre avec des pincettes, hein, voici ce que dit Rima Hassan, l'eurodéputée insoumise, qui était présente sur la flottille qui a tenté de percer le blocus il y a maintenant quelques semaines. Et elle parle justement de cette accusation de massacre que commettrait le Hamas sur la population palestinienne, hein, sur notamment des Palestiniens qui auraient collaboré avec Israël. C'est le dernier coup médiatique que l'on peut voir et qui est largement répandu. Alors elle s'interroge, une guerre civile à Gaza. Depuis le dimanche 12 octobre, des affrontements armés ont débuté à Gaza entre les forces de sécurité du Hamas et des groupes armés accusés de soutenir Israël. Voici le décryptage qu'elle propose. Elle rappelle qu'Israël soutient matériellement et financièrement des groupes armés pour fragmenter la population à Gaza et donner un visage donc palestinien au nettoyage ethnique. Et elle rappelle qu'Israël arme des groupes armés proches de l'État islamique, ce qui est une stratégie qui est assumée en personne par Netanyahou. Il y a des liens, notamment un lien diffusé sur Haaretz, donc un principal journal israélien. Tout ceci, je l'ai pris sur son compte Facebook. Il y a les liens, vous pouvez aller cliquer pour voir un petit peu recouper les infos. En juin, d'ailleurs, Netanyahou a admis avoir armé et soutenu la milice des forces populaires à Gaza, qui serait proche de l'État islamique. Petite parenthèse d'ailleurs, c'était la même pour le Hamas il y a 10 ans, hein, ça lui a été beaucoup reproché d'avoir là aussi armé le Hamas pour saper justement une véritable opposition politique palestinienne. La milice des forces populaires donc, est un de ces groupes armés qui est à ce moment armé par Israël. C'est un gang dirigé par Yasser Abu Shabab, échappé de prison autour du 7 octobre alors qu'il était emprisonné depuis 2015 pour des accusations liées à la drogue. C'est donc un gang armé qui est à l'origine des pillages d'aide alimentaire. Là aussi, nous avons des liens vers le journal, par exemple Libération. Voilà, donc elle revient sur Abou Shabab avec des notes de l'ONU, qui en fait une note de service interne de l'ONU et diffusée par le Washington Post, qui donc nomme cette Abou Shabab la principale et la plus influente partie prenante derrière le pillage systématique et massif à Gaza. Et une enquête de Sky News confirme là aussi qu'Israël a utilisé la Gaza Humanitarian Foundation pour approvisionner cette fameuse milice. Voilà, il y a aussi des liens. Et donc, elle explique que depuis le cessez-le-feu, Israël utilise ses gangs pour lancer des attaques contre le Hamas au cœur de Gaza, donc sans que l'armée israélienne n'ait besoin d'intervenir. Israël tenterait donc de fomenter une guerre civile via des gangs mandataires et criminels. Tout ça pour pouvoir dire « Nous ne violons pas le cessez-le-feu, ce sont des Palestiniens qui tuent des Palestiniens ». Le ministère de l'Intérieur du Hamas a donné jusqu'au 19 octobre, donc jusqu'à il y a deux jours, aux membres des gangs pour se rendre, en annonçant l'amnistie à ceux qui se rendraient, sauf aux criminels. Là aussi, ça a été, c'est un communiqué officiel qui est donc consultable en ligne. Et elle ajoute, il faut également noter que le Haut Conseil des clans palestiniens de Gaza, ce qui est aujourd'hui la plus grande assemblée des principales familles de Gaza, déclarait son soutien aux forces de sécurité du Hamas dans cette quête donc pour imposer la sécurité sur place. Elle dénonce les collaborateurs avec Israël et appelle à ce que toute personne coupable de pillage, de meurtre ou d'espionnage soit tenue responsable. Là, vous avez aussi un article qui renvoie vers le journal Middle East Eye. Et donc, pendant que se propagent ces récits de guerre civile, je vous le disais, l'aide humanitaire qui rentre à Gaza est toujours minime et le monde retourne dans son abandon des Gazaouis. Elle conclut, il faut tout faire pour laisser rentrer la nourriture, l'assistance médicale, la presse, reconstruire Gaza et ne pas abandonner les Gazaouis qui sont laissés seuls face à une armée coloniale prête à s'accaparer le territoire. Voilà, et je termine donc avec ce rappel d'être d'extrême vigilance en ce moment avec ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, notamment en tout cas du côté de Facebook et tous ceux qui utilisent la vidéo globalement, puisqu'il y a une grosse poussée, j'ai pu le remarquer, des influenceurs du côté d'extrême droite ces dernières semaines. On me propose à moi, par exemple, qui est pourtant un profil assez marqué, beaucoup de choses de politique, d'ailleurs souvent très, très grossièrement montée. Beaucoup de vidéos faites par intelligence artificielle qui sont aujourd'hui quasi indétectables, si on se réfère à la qualité de l'image. Donc un petit conseil de base, même si vous ne voulez pas y passer des heures, vous voyez une info bizarre, allez googler, voir déjà s'il y a d'autres articles qui reprennent le truc ou si c'est juste quelque chose qui est fait au minimum pour faire du buzz et au pire, pour nuire justement à certains récits.
Qu'est-ce donc cette diablerie ?
Des nouvelles du monde.
Allez, on enchaîne avec de l'info avec ou sans filtre et avec surtout des bons jeux de mots pas terribles. On va parler en effet des filtres de cigarettes, une brève piochée dans les colonnes du journal Reporter. Les filtres des cigarettes, ça ne sert à rien. En tout cas, c'est inutile pour la santé. En revanche, ils sont bien nocifs pour l'environnement. De nombreux fumeurs croient en effet que les filtres protègent la santé et leurs poumons. Il s'agit en réalité d'un mythe. Des chercheurs britanniques affirment aujourd'hui que les filtres ne réduisent pas l'exposition aux substances toxiques. Au contraire, puisqu'ils incitent à respirer plus profondément et plus longtemps la fumée, ils peuvent incruster des fibres d'acétate, de cellulose et des microplastiques nocifs dans vos poumons. C'est un éditorial de la revue scientifique Addiction qui a été publié ce 15 octobre. Sans compter d'ailleurs que les filtres des cigarettes facilitent aussi l'entrée dans le tabagisme, car elles rendent le goût du tabac plus doux et moins irritant. Outre ces risques pour la santé, donc les filtres de cigarettes comptent parmi les plus grandes sources mondiales de déchets plastiques, puisque souvent on les écrase du bout du pied et on les jette, ou voir si on les jette carrément pas par la fenêtre des voitures, ce qu'on voit encore l'été d'ailleurs dans notre pays, ce que je trouve complètement dingue. Parce que, je le rappelle, c'est une des causes principales de départ des incendies. Donc voilà, ces scientifiques demandent l'interdiction des filtres au Royaume-Uni dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement. Environnement toujours, on est à 20 jours de la COP30 et le pays qui va l'accueillir, le Brésil, vient d'approuver de nouvelles explorations pétrolières. Dame, on est à 20 jours de cette conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui va se dérouler à Belém et c'est donc un énorme coup porté aux défenseurs de l'environnement brésilien. L'Institut brésilien de l'environnement et des ressources naturelles renouvelables, qui s'appelle l'IBAMA, il vient d'approuver ce 20 octobre le début de perforations pour la recherche de pétrole. Sur le site de Fosse do Amazonas, on est à 500 km de l'embouchure du fleuve Amazon. C'est donc la fosse de l'Amazon, hein, en face de l'estuaire du fleuve, le plus gros fleuve du monde. C'est l'entreprise Petrobras, une entreprise publique d'exploitation pétrolière, l'équivalent de Total chez les Brésiliens, qui a donc maintenant le feu vert pour s'assurer dès aujourd'hui que cette zone contient des hydrocarbures en quantité suffisante pour lancer une exploitation commerciale. Une éventualité très probable, hein, puisque cette région de la marge équatoriale, qui est la partie de la côte qui fait plus de 2200 km de large, où on trouve donc la fosse des Amazones, elle présente des caractéristiques similaires aux littoraux d'autres pays, comme le Suriname, la Guyane française et le Guyana, qui sont devenus en quelques années les détenteurs des plus grandes réserves de pétrole brut du monde. Selon le ministère brésilien des Mines et de l'Énergie, cette marge équatoriale pourrait en effet contenir jusqu'à 10 milliards de barils de pétrole. L'exploitation d'une telle manne vient pourtant, vous en doutez, avec d'innombrables risques environnementaux, alors notamment que la forêt amazonienne pourrait bien déjà avoir atteint son point de non-retour, ce qui l'amènerait à sa désertification dans les prochaines décennies, sans parler aussi de cette trajectoire de continuer à utiliser des énergies fossiles à l'heure où tout nous pousserait à décarboner l'industrie, à minimum. Sous le feu des critiques, donc, l'IBAMA a déclaré dans un communiqué que la délivrance de cette licence a eu lieu après un processus rigoureux d'octroi de licence environnementale. Pourtant, dans son rapport technique, hein, qui avait été réveillé par le journal La Folha de São Paulo, le plus grand quotidien brésilien, eh bien, le même institut, l'IBAMA, notait la menace que cette exploitation de pétrole représenterait pour la population des lamantins. Ce sont des gros mammifères aquatiques, hein, à cheval entre le nounours et le dauphin un petit peu. Ils sont déjà menacés d'extinction. Et en plus, l'IBAMA pointait également les possibles effets sur les populations indigènes environnantes. Et ces effets ont carrément été tout simplement ignorés des dossiers. En effet, ce site est localisé à 175 km des côtes de l'État amazonien de l'Amapá, qui est pour l'instant le mieux préservé du pays. Et donc ce site pétro-industriel pourrait, par exemple, en cas de marée noire, affecter une région qui compte 80% des mangroves brésiliennes. Alors que l'Amazonie doit donc accueillir à Belém sa première COP dans 20 jours, cet événement met la lumière sur les ambiguïtés de la présidence de Luiz Inácio Lula da Silva, qu'on appelle Lula, sur cette fameuse question écologique. Il succède, vous le savez, au leader d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui était lui ouvertement hostile à la protection de la nature. Mais Lula, l'ex-syndicaliste, a fait de la protection de l'Amazonie justement son image de marque à l'international dès son élection en 2022. Cette posture vient donc contredire son soutien répété à ce projet Fosse do Amazonas. Voilà ce qu'il disait dans une interview en juin. « On ne peut pas abdiquer cette richesse. Ce que l'on peut faire, c'est s'engager pour qu'aucun dommage environnemental ne soit causé. » Le voilà donc aujourd'hui la cible des critiques des milieux écologistes. Lula vient d'enterrer son ambition de devenir un leader climatique au fond de l'océan, attaqué par exemple Sueli Araujo, elle-même ancienne chef de l'IBAMA, donc le fameux institut qui s'occupe des recherches minières. De leur côté, les écologistes non plus ne baissent pas les bras, avec au moins 7 autres ONG. Greenpeace Brésil a d'ores et déjà annoncé entamer une action judiciaire contre la décision de l'IBAMA. Nous sommes très optimistes, puisque le ministère public fédéral, ce qui est l'équivalent au Brésil du parquet, s'est lui aussi positionné contre l'autorisation de ces perforations. Et en effet, le parquet avait divulgué sa position à une semaine avant l'annonce de l'IBAMA. Enfin, dernier atout déterminant, ça sera la mobilisation de la société civile, hein, qui compte bien profiter de cette COP organisée dans un pays démocratique pour la première fois depuis 4 ans, pour faire entendre sa voix et notamment celle des nombreux peuples autochtones.
Une dictature, comme vous y allez. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
Des nouvelles du monde.
Peut-être fait-il référence à la Libye, et ça nous ramène à la dernière info du jour. La première nuit que va passer Nicolas Sarkozy en prison à la santé ce soir. L'ancien président de la République a en effet été écroué. Il a déposé une demande de mise en liberté dès son arrivée là-dedans, c'est ce qu'a annoncé un de ses avocats. C'est en tout cas une première pour un ancien président sous la 5e République, hein. Nicolas Sarkozy incarcéré aujourd'hui à la prison de la santé dans le 14e arrondissement de Paris, près d'un mois suite à sa condamnation pour association de malfaiteurs dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle victorieuse en 2007. Il a été condamné à 5 ans de prison ferme. Donc, immédiatement après son incarcération, ses avocats ont déposé une demande de mise en liberté. Elle sera examinée à peu près dans un mois, affirmé ce matin son conseil, Christophe Ingrin. Les 5 années de prison ferme, on verra s'il les fait. Mais dans tous les cas, il y est déjà pour un minimum de 3 semaines ou d'un mois, assure l'un de ses avocats. À voir de quelle faveur il bénéficiera au sein de l'établissement pénitentiaire qui voit passer régulièrement des personnalités très médiatiques. D'ailleurs, le fils de Nicolas Sarkozy, hein, Louis Sarkozy, influenceur assez comique s'il en est, il a organisé ce matin un rassemblement de soutien à proximité du domicile familial, dans le 16e arrondissement parisien, bien évidemment. Donc un soutien de la Haute de Paris pour protester contre l'injustice de la justice. À noter qu'une autre manif de droite, mais celle-ci un peu plus parodique, avait aussi été organisée. Elle a tenté de se joindre aux manifestants pro-Sarkozy, mais les policiers les en ont empêchés. Je vous fais quand même écouter un petit peu les slogans qu'ils ont scandés. Ils étaient tous déguisés en gens de droite. Voilà, vous avez des vidéos.
Bokassa, Kadhafi, les dictateurs sont nos amis. Bokassa, Kadhafi, les dictateurs sont nos amis. Bokassa, Kadhafi, les dictateurs sont nos amis. Les prolos en prison, les prolos en prison. Les prolos en prison.
Voilà, les manifs de droite, fake news avant l'heure où on ne sait plus très bien si c'est premier, deuxième ou troisième degré. À noter que Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, avait annoncé qu'il irait rendre visite à l'ex-président pendant son incarcération en tant que ministre de la Justice. Eh bien, le procureur général de la Cour de cassation a estimé aujourd'hui qu'une visite de Darmanin à Nicolas Sarkozy à la Santé pourrait porter atteinte à l'indépendance des magistrats. C'était donc pas très bienvenu. À moins que Darmanin, finalement, n'aille rendre visite à Sarkozy pour une durée un petit peu plus longue, puisqu'il a aussi pas mal de casseroles au cul. Mais on en reparlera. On termine en musique avec un hommage à un musicien, chanteur et chercheur qui vient de nous quitter. C'est Jean-Marie Carlotti, un Arlésien, le chanteur de la chanson Occitane. Il est décédé ce samedi 18 octobre à l'âge de 77 ans. Troubadour des temps modernes, ce Provençal avait écrit parmi les plus belles pages de l'histoire contemporaine de la chanson des pays d'oc, cofondateur du groupe emblématique Montjoy dans les années 70. Il a ainsi contribué au renouveau de la chanson en langue d'oc. Parmi les plus grands spécialistes de la poésie des troubadours, mais pas que, puisqu'il était aussi féru notamment de musique indienne, il a chanté des poèmes médiévaux ainsi que ceux d'auteurs du 19e et 20e siècle comme Victor Gélu et Robert Laffin et Rombert Lafont. Sa trajectoire et sa personnalité ont ainsi inspiré et accompagné nombre de formations mythiques. Aujourd'hui, on peut citer les hommages très nombreux qui ont plu suite à son décès, des Massilia Sound System à Djebaletti, en passant par Manu Théron et son corps de la plane, ou encore Sam Carpegna, chanteur de Dupin, pour ne citer que quelques-uns donc des artistes actuels de cette scène occitane qui revit et qui est toujours en quête justement de renouvellement et d'innovation. Voilà, on va écouter donc Galante de ta maestresa de Gianmarie Carlotti. Et on vous souhaite une bonne continuation sur les ondes de Radio Escapade.
casado, cura si la que venen casado, la pause sin lexo de mar, la pause sin lexo de mar, la sirena que danza si laigo, la sirena que danza si laigo, qui venga per l'encan cantar, qui venga per l'encan cantar, canto canto tu de segredino, canto canto tu de segredino, de segredino las per cantar, de segredino. Amo come mio per mangiare, amo come mio per mangiare.
Des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les Nouvelles du Monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.